Bruno Gervais se joint à nous. Il est collaborateur au Réseau des sports. On le sait, Bruno, ça va bien?
Très bien, toi?
Ah, très, très bien. La question de ce soir. Ben, écoutez, là, c'est la question que je pose au public. Joueur de centre numéro un ou bien un défenseur numéro deux pour jouer avec Weber, à gauche de Weber, évidemment. Je parle à un ex-défenseur de la Ligue nationale de hockey, Bruno. Quelle est la priorité, selon toi, pour le Canadien? Comment vois-tu ça?
Bien, moi, ma première réaction, c'est sûr, étant un ancien défenseur, peut-être que ça l'a influencé, mais moi, je pensais à un vrai défenseur numéro 2, un gaucher qui allait jouer avec Shea Weber, qui allait passer toutes les minutes sur la patinoire à 5 contre 5 et en désavantage numérique avec lui. Et je trouvais ça très important, surtout pour la relance du Canadien. Mm-hmm. Je trouvais ça important pour Shea Weber de ramener, de rebondir un peu, mais avec, c'est pas que c'était une mauvaise saison sur la glace, mais avec la blessure de connaître une bonne saison l'année prochaine, je trouvais ça très important. Mais là, j'ai dit, je jase avec Ron, et Ron mérite une vraie réflexion. Là, je me suis assis avec l'alignement du Canadien, puis ce qu'ils ont vraiment besoin. Et le fait que ce que Riley a démontré en fin de saison me pique ma curiosité pour l'année prochaine, oui. Je serais prêt à lui laisser sa chance. Et mais c'est là que le centre numéro un, pas juste parce que oui, toutes les équipes ont. Tu cherches un centre numéro un, ça a un gros impact en avantage numérique, désavantage numérique à 5 contre 5. C'est l'effet domino que ça va avoir sur l'alignement du Canadien et ça va placer beaucoup de joueurs dans la bonne chaise.
Okay.
Un Jonathan Drouin comme deuxième centre. S'il reste au centre, c'est bien mieux d'apprendre comme deuxième centre, te donner la chance d'avoir des match-ups favorables pour toi à la maison et même sur la route pour permettre de te développer, d'apprendre d'un joueur de centre numéro un qui est devant toi, que tu côtoies tous les jours. Je pense à un Philippe Danault qui tomberait troisième centre. Je pense que ce serait la chaise parfaite pour lui. Ensuite de ça, tu peux venir remplir là, ton top 9 plus facilement et être beaucoup plus menaçant offensivement avec trois vagues. Parce qu'on parle beaucoup de top 6, mais quand on regarde dans la Ligue nationale présentement, les équipes qui ont du succès, on parle d'un top 9. Et c'est ce que le Canadien va pouvoir peaufiner avec un vrai centre numéro 1. C'est plus facile de venir monter des joueurs de talent sur les ailes quand ils ont un bon joueur de centre entre eux.
Bruno Gervais, j'ai une question à te poser aussi, assez importante, parce qu'il y a de la confusion dans le Grand Québec actuellement. C'est la fameuse attitude dont parlait Marc Bergevin et M. Motsun. Toi, quand tu as entendu ça, ça te disait quoi, attitude? Ça te disait quoi? Tu interprétais ça comment? On t'écoute.
Bien, premièrement, moi, je voyais ça comme sans nommer de nom, puis Marc Bergevin va tout le temps protéger ses joueurs jusqu'à la fin, étant un ancien joueur lui-même, le comprend très bien. Mais c'était un message qui était lancé directement à certains joueurs du Canadien. Mm-hmm. Et c'est sûr qu'il y a certains joueurs qui ont eu des conversations, des rencontres de fin d'année qui ont dû brasser un peu. Parce que c'était directement pointé à eux. Dans une saison de hockey, tu as énormément d'adversité. Mm-hmm. Et c'est dans l'adversité que... Moi, je crois pas que c'est dans l'adversité que tu vas former ton caractère. C'est dans l'adversité que tu vas le révéler. Et cette année, ça a été une autre saison où il y a beaucoup d'adversité. En commençant avec les séries l'année dernière, perdre en première ronde contre les Rangers, ce qui s'est passé dans la saison morte, le camp d'entraînement, il y a eu beaucoup d'adversité où tu veux voir tes joueurs rebondir. Sortir plus fort, trouver des solutions.
Okay.
Au lieu de devenir des oui-mais, un joueur qui était, il va y avoir des joueurs comme ça que c'est tout le temps un oui-mais. Ça marche pas, mais oui-mais, notre système de jeu nous aide pas. Oui-mais, il y a ça, des excuses. Et ça avait l'air d'une saison comme ça où on laissait les choses, on laissait l'effet de boule de neige grossir et grossir et grossir dans la chambre, dans l'équipe, que ça devenait de plus en plus difficile de se rendre à l'aréna. On entendait beaucoup parler qu'il n'y avait pas d'âme, qu'il n'y avait pas d'émotion, que c'était pas plaisant de se rendre à l'aréna. Ça, c'est parce que tu laisses les choses aller et tu laisses cette boule de neige-là grossir et grossir et grossir. Et c'est là que ça a mené le Canadien à une saison, une perte assez rapidement. On savait que le Canadien ne serait pas des séries.
Ouais.
Donc, c'est là, quand tu parles d'attitude, c'est que il y a un problème qui t'est arrivé dans le visage, un début de saison difficile, et c'est de la façon que tes joueurs vont réagir. Est-ce qu'ils vont se regrouper ensemble? Est-ce que tu vas être un qui va être capable d'aller prendre tout le monde par le collet, les ramener dans le centre, les regrouper ensemble? Mm-hmm. C'est ici qu'on va s'en sortir. Ou tout le monde part de leur côté, pointe du doigt un petit peu, utilise le oui-mais. Et c'est ce qui s'est passé avec des joueurs qui étaient des jeunes joueurs qui sont rendus des vétérans dans les nationales et des joueurs à qui les autres joueurs de l'équipe vont regarder, vont suivre l'exemple. Et des fois, ces personnes-là ne se rendent pas compte qui sont déjà devenus cette personne-là à qui, de qui on regarde. Mm-hmm. On veut voir, on va voir comment il va réagir pour suivre l'exemple. Et Carey Price est un excellent gardien, mais lui-ci, certaines facettes, certaines réactions qu'il a eues, a eu un effet négatif sur l'équipe qui c'était involontaire, il ne voulait pas abaisser l'équipe, mais des fois, c'est de réaliser que, waouh, tout le monde autour regarde ce que je fais et ça a un impact sur eux, sur leur façon de vivre à l'aréna. Ben, c'est là qu'il y a eu un problème d'attitude et l'année prochaine, c'est tout de suite juste l'attitude que tu as en rentrant le matin, ce que tu vas, comment tu vas réagir au fait que le coach va te dire que tu as un entraînement avant un entraînement physique avant l'entraînement sur glace. Mm-hmm. Ben, si tu bougonnes, tu es fâché, ça ne te tente pas, mais ça a un effet sur l'autre. Ça a un effet, ça rend le travail de l'entraîneur physique plus difficile. Et ça a tous des effets boule de neige comme ça qui peuvent grandir pendant une saison. Et ça, c'était des flèches lancées directement à certains joueurs qui ont agi ou qui ont réagi comme ça à ce qui s'est passé rapidement dans la saison et à tous les moments d'adversité. Que là, ça ne marchera pas. Je pense pas qu'il va y avoir un grand ménage. Je pense pas que ça veut dire nécessairement que ces joueurs-là vont être échangés. Mais ça veut dire que c'est pas acceptable ici. Et dès l'année prochaine, jour 1, l'attitude, c'est la première chose. Ça doit avoir changé. On veut aller dans la bonne direction.
Bruno, c'est pas juste de cette année, ça. Il me semble que ça perdure. Il me semble que ça fait 2-3 ans que c'est un petit peu comme ça, l'attitude, à savoir qu'on ne tient pas dans la même direction. Je me trompe?
Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est la première saison que je suis vraiment trempé. Dans ce qui se passe avec le Canadien.
Ouais.
Mais à distance, avec ce qui s'est passé en première ronde, tu sais, des fois, tu as des pansements que tu peux mettre là-dessus ou des choses qui viennent un peu faire oublier ça.
Ouais.
Le fait que le Canadien avait connu un excellent début de saison avant la blessure à Carey Price, je crois, il y a 2 ans, bon, mais c'est facile parce que tu peux en pelleter beaucoup puis lancer ça sur le fait, sur le tas de terre que c'est Carey Price qui s'est blessé. Okay. Ensuite, l'année dernière, tu as l'effet Radulov qui, lui, venait cacher. L'attention était sur lui, puis l'émotion qu'il amenait, l'intensité qu'il amenait. Fait que des fois, tu remarquais pas autant ceux-là qui baissaient les épaules ou ceux-là pour qui c'était un peu plus difficile, mettons, d'avoir un sourire ou de voir de l'intensité. T'en avais un qui faisait, qui le démontrait. L'équipe gagnait, tu te rends en série. Il y a bien des choses qui viennent camoufler ce qui se passe en dessous du tapis. Il y a bien de la poussière que tu peux lancer en dessous du tapis dans ces occasions-là, quand tu as des événements comme ça. Là, cette année, il n'y en avait pas. Cette année, tu as pris le tapis et tu l'as enlevé. Mm-hmm. Puis là, tu réalises que ta barouette, ça fait longtemps que l'aspirateur n'a pas été passé ici. Et c'est ça qu'il faut qu'il se passe dans la saison.
Bruno Gervais a évolué dans la Ligue nationale de hockey pour certaines équipes, dont les Islanders de New York, en compagnie de John Tavares. Un, tu l'as connu assez bien et tu as certainement une opinion. John Tavares, un, retourne-t-il avec son équipe ou John Tavares décide-t-il de joindre une autre formation? Je t'écoute.
Avant, moi, j'étais sûr et certain que John Tavares allait retourner avec les Islanders de New York. C'est un joueur extrêmement loyal. C'est pas quelqu'un qui aime l'attention. C'est un vrai, on dit, un nerd de hockey, vit du hockey 24 heures sur 24. C'est un passionné, c'est un intense, et c'est un de ceux-là qui a travaillé ses habiletés. Lui, l'éthique de travail qu'il a, c'est exceptionnel. Puis moi, je le voyais pas s'en aller ailleurs puis de s'attirer cette attention-là du gros contrat, puis de changer d'adresse, puis que les Islanders reçoivent rien en retour, etc. Mm. Mais après, j'ai eu la chance d'aller souper avec lui puis Josh Bailey quand les Islanders sont venus jouer à Montréal, puis on faisait juste parler un petit peu, puis il me posait beaucoup de questions sur mon premier garçon est né aux États-Unis, ce que ça peut signifier d'avoir les deux passeports, etc. Puis là, on s'est mis à passer un petit peu après les questions qu'il se pose, lui, pour la grande décision qu'il va avoir à prendre cet été.
Ouais.
Et là, j'ai réalisé, je le savais que c'était un homme très intelligent, très mature, réfléchi. Mais là, j'ai été surpris par, et c'est vrai que c'est une décision très importante, mais c'est la décision d'une vie. Puis il a réalisé déjà, lui, qu'il va se marier cet été, parle de famille, il a réalisé que ce n'est plus la décision de John Tavares seulement. C'est une décision de future famille, c'est une décision de vie, et il met énormément d'importance de prendre toutes les petites facettes, les détails de cette décision-là et d'être sûr des analyser, comme il l'a fait avec chacune de ses parties, chacune de ses facettes sur la glace. Là, il fait la même chose avec ce qui se passe hors glace, et j'ai été surpris de le voir. Là, après ce souper-là, j'ai comme compris que oui, les Islanders restent une option, mais qu'il est ouvert, il vraiment analyse de fond en comble la situation pour voir c'est quoi le meilleur move, la meilleure chose qui peut arriver à John Tavares. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a des chances qu'il change d'adresse pendant l'été.
Comprenons bien ici, on a Bruno Gervais qui a joué avec John Tavares. Récemment, il a soupé avec John Tavares. John, lui, il n'a pas révélé ses intentions comme telles, mais il s'est informé. Bon, laisse-moi te poser une question primordiale, parce que tu as lunché avec ce gars-là, tu le connais, il te fait confiance. As-tu l'impression que ce gars-là, son épouse également, pourrait être intéressé? Qu'est-ce qui serait attrayant pour eux de venir s'installer à Montréal et surtout pour lui, d'évoluer pour le Canadien? Penses-tu qu'il y aurait une possibilité?
Bien, il ne m'a pas posé de questions sur Montréal ou sur les environs. La seule chose que je vois qui sera en la faveur du Canadien, c'est le fait qu'on est au Canada et sa future femme est une femme qui travaille, qui a beaucoup d'énergie, qui veut faire ses propres choses. C'est loin d'être la madame qui veut mettre la clé dans la porte et juste rester à la maison et profiter d'une bonne bouteille de vin blanc pendant que John travaille. Elle veut faire ses propres choses, elle veut travailler et c'est une Canadienne. C'est plus compliqué pour eux d'aller travailler aux États-Unis. C'est le seul avantage que je peux voir. Mais dans tout ça, peu importe c'est quoi, peu importe c'est comment, il va trouver une façon à que ça fonctionne. Moi, je pense que pour John, c'est sûr qu'il aurait aimé rester avec les Islanders. La seule affaire qui fait bugger un petit peu présentement, c'est la situation de l'aréna. C'est un scénario difficile pour les joueurs, pour certains joueurs qui trouvent ça très, très, très difficile d'avoir une routine qui est compliquée la journée des matchs. Le voyagement, la différence, la distance à faire pour les entraînements, la distance à faire pour les matchs. Il y a beaucoup de complications pour ce qui est aussi de l'entourage. Il y a beaucoup de femmes de joueurs qui n'allaient pas au parti avec les enfants parce que c'était trop compliqué. Et ça, c'est pour moi-même avoir eu la chance de jouer, avoir mon petit garçon être capable de venir à l'aréna. Ouais. C'est quelque chose que tu prends fierté de le voir rentrer dans la chambre après une victoire, puis de le voir côtoyer une équipe de hockey. C'est un privilège de pouvoir faire ça avec un jeune enfant. Et tu voyais que ça dérangeait beaucoup John Tavares de voir qu'est-ce qui... Oui, ça s'en va dans la bonne direction pour Long Island, mais c'est loin d'être fait. Et quand tu signes un contrat de 8 ans, tu parles d'une vie, tu parles d'une carrière, c'est dur de dire que la première moitié de ce contrat-là, ben ça va être plate, ça va me déranger, ça va être la chenoute, mais qu'après ça, ça va être mieux. C'est dur d'accepter ça.
Bruno Gervais est notre invité. Comme dernière question, Bruno, prédiction, y a-t-il quelque chose que tu vas surveiller attentivement en première ronde? Je te laisse aller. Et surtout, qui va remporter la Coupe Stanley? Vas-y, Bruno.
Oh, et là, je ne sais pas s'il reste une heure au show, mais les prédictions avec la parité de la Ligue nationale, c'est comme demander à un expert de monnaie d'anticiper le gagnant d'un tournoi de pile ou face. C'est à peu près ce qu'on est en train de faire avec la Ligue nationale. Mais dans toutes les séries, moi, j'adore ça, c'est le temps de l'année. Là, pour moi, c'est Noël présentement, surtout la première ronde comme ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de scénarios que je vais suivre. Je veux voir ce qui va se passer avec les Jets de Winnipeg. Ils sont passés d'une équipe dans l'ombre, une équipe qui ne fait jamais rien en série. Là, tout d'un coup, tout le monde parle d'eux comme une équipe qui pourrait gagner. Est-ce qu'ils vont être capables de répondre aux attentes? Dans l'Est, j'ai bien hâte de voir ce que le Lightning de Tampa Bay va faire. Est-ce que les Penguins vont être capables de se retrouver là pour une troisième année de suite, d'aller chercher la Coupe Stanley? Moi, j'ai ma petite équipe, là, mon surprise, là, mon Dark Horse, mettons, c'est les Kings de Los Angeles. L'addition de Dion Phaneuf, c'en est une, mais la grosse addition qu'ils ont fait, c'est Jeff Carter. Ils ont été capables de se glisser en série quand Jeff Carter a manqué la grande majorité de la saison. Andy Kopitar, Dustin Brown et Jonathan Quick, on dirait qu'ils ont rajeuni de 5 ans et ils connaissent une excellente saison. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ce genre d'équipe-là pourrait faire. Mais je les vois se rendre en finale de la Coupe comme je les vois perdre en première ronde. C'est ce qui se passe maintenant dans la Ligue nationale. C'est ce qui rend les choses tellement intéressantes.
Écoute, bon match dans tes séries à toi, comme encore amateur de hockey au point où tu joues avec tes chums et tout ça, puis je te souhaite la meilleure des chances. Puis écoute, continue ton excellent travail au réseau des sports. Merci de ta collaboration, t'es gentil au bout. Puis bienvenue encore une fois dans la confrérie, tu fais de l'excellent travail.
Bien, merci à toi, Ron, ça fait un plaisir.
Merci, bye bye Bruno.
Bye bye.